Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. La population de Nyiragongo affirme n'avoir jamais reçu les 300 000 dollars américains, dont de Moïse Katumbi Tchapwe, destinés aux sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. La société civile locale déplore l'opacité dans la gestion des fonds destinés aux sinistrés. À Bounia, plus de 9000 enfants des déplacés du site de Kigonze ne seront pas à l'école. Selon la vice-présidence de ce site, seuls 1000 enfants ont été inscrits dans une école de la place et d'autres restent à la maison depuis 2 ans faute de moyens. Notre invité, c'est le coordonnateur du programme national de lutte contre le sida au Grand Nord Kivu. Docteur Nikez Maté parle de l'augmentation du VIH-Sida à Beni, Butembo et Lubero où 654 cas ont été identifiés lors du dernier trimestre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. En territoire de Nyiragongo, la population affirme n'avoir jamais reçu les 300 000 dollars américains, dont de Moïse Katumbi Tchapwe, destinés aux sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. L'octroi de ce don par l'entremise du gouvernement congolais a été rappelé lundi dernier par le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapwe lui-même, en visite dans la région. La société civile déplore l'opacité dans la gestion des fonds destinés aux sinistrés. Un reportage de Sifa Magrou.
Pour les conseils territoriaux de la jeunesse de Nyiragongo, outre cet argent, de nombreux autres dons et assistances destinées aux sinistrés ne sont jamais parvenus à destination alors que des sinistrés meurent de faim. Faustin Zabayo demande au gouvernement de libérer les dons en nature qui sont encore entreposés à Goma ainsi que tout le fonds destiné aux sinistrés de l'éruption volcanique.
Nous avons plus de 6 000 sinistrés qui sont regroupés dans 3 camps. Mais fort malheureusement, que la nourriture soit entreposée dans des entrepôts à Goma, il y a des personnes qui risqueraient même mourir de la famine. Et autre chose, il y a même 20 000 dollars qui a été donné par le premier ministre Sama Lokonde lors de son passage dans le site de l'EPKMB. Il y a l'Union africaine qui est venue avec 150 000 dollars. Jusqu'à présent, nous ne savons pas la destination. Et le président du MK, Moïse Katumbi, il a très très bien souligné que lui-même, il avait donné 300 000 dollars en faveur des sinistrés. Cet argent n'est pas parvenu toujours à la destination.
Pour sa part, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire appelle la population de Nyiragongo au calme. Modeste Mutinga promet de venir incessamment à Goma pour éclairer la population sur l'utilisation de tous ces fonds. Goma, Sifa Magourou, Radio Okapi.
Je rappelle que les 300 000 dollars américains ont plutôt été apportés par la communauté katangaise. Nord Kivu encore, les activités socio-économiques sont paralysées depuis ce mercredi matin à Kiavinyonge dans la chefferie de Bachou. C'est suite à l'appel de la société civile locale qui a décrété 2 journées de manifestations dites pacifiques ce mercredi et demain jeudi. La journée de demain est consacrée au transport des matériaux des constructions à Mousséa et à Kiavinyonge. À travers ces actions, la société civile dit protester contre la mesure qui a été prise par l'ICCN d'interdire l'entrée à Kiavinyonge des matériaux de construction. Le point de la situation avec vous, Floride Karambou.
Kiavinyonge est une localité de plus de 35 000 habitants, située à environ 80 km au sud-est de Butembo. La société civile locale rapporte que ces matériaux de construction, dont des graviers, des moellons et bien d'autres, sont exploités à partir de Mousséa, dans le cadre de la construction en dur des maisons des particuliers et une institution supérieure, initiée par l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Samuel Moulouko. Président de la société civile locale, indique que ces matériaux sont bloqués au poste de patrouille de Mousséa par des éco-gardes de l'ICCN sur instruction de leur hiérarchie. Il estime que l'ICCN interdit la construction des maisons en dur sur place sans aucun soubassement légal. En réaction, Mwindo Kidumu, chef des localités de Kiavinyonge, affirme être au courant de cette situation. D'après lui, il y a des gens qui ont construit des maisons en dur à Kiavinyonge sans que l'ICCN les ait empêchés de les faire. Il plaide donc pour l'implication des autorités compétentes dans cette affaire en vue de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Le communicateur de l'ICCN, Olivier Mugisha, que nous avons contacté à ce sujet, a promis de réagir dès que possible. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Au Maniema, le président de l'association des défenseurs des droits de l'homme et l'encadrement de jeunes alerte sur la situation sanitaire des mineurs détenus à la prison centrale de Kindu. Ferdinand Ngumbi affirme qu'un de ses enfants est dans un état critique faute d'assistance médicale. Il sollicite par conséquent l'intervention des autorités et de bonne volonté. Il le dit au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons su tout l'air de passer aujourd'hui à la radio pour crier auprès des autorités, même d'autres organisations de la protection des droits de l'homme et des droits de l'enfant, compte tenu de la situation qui s'observe ces derniers temps dans la prison centrale, précisément au quartier spécial des mineurs. Là où nous trouvons, il y a parmi les mineurs, il y a ceux qui sont malades, mais il manque aussi des soins appropriés. Peut-être aujourd'hui ou bien lendemain, on peut quand même à résister des cas de mort. C'est pourquoi nous demandons auprès de tout le monde, même aux autorités provinciales qui changent d'abord pour les cas aussi des tribunaux pour l'enfant, comment on pourrait quand même laisser les tribunaux pour l'enfant comme ça, sans pourtant de donner aussi des financements, de contrôler comment nos mineurs, nos enfants sont là. C'est pourquoi nous demandons que tout le monde puisse d'abord veiller comment les enfants doivent nécessairement être protégés au lieu que nous à résister des cas de décès au niveau des prisons centrales, quartiers spéciaux des mineurs, mais ce problème aussi de ils sont toujours inondés, ça peut créer aussi des maladies.
La nouvelle est confirmée par le directeur de cette prison, Paul Ilunga Lukengo, attire l'attention de tout le monde pour trouver une solution à ce problème. Parlons maintenant des Congolais qui reviennent d'Angola vers la frontière de Kamako. Le gouverneur du Kasaï affirme avoir dépêché sur place son ministre des Affaires sociales pour s'enquérir de la situation. Dieudonné Piémé parle de plus de 8000 personnes enregistrées à ce jour. Il dit attendre le rapport qui lui sera transmis par ses collaborateurs. Il a été joint par François Kadima.
Ces personnes ne sont pas cantonnées à un endroit précis. Ce sont des personnes éparpillées ici et là, dans les villages qui longent la frontière. Il n'existe pas de cantonnement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement provincial a résolu de dépêcher notamment le ministre des Affaires sociales, vérifier certaines allégations qui font état de troubles humanitaires. Nous allons nous prononcer sur la question une fois que nous avons reçu un rapport qui vient de là. Mais à ce jour, nous n'avons pas un rapport précis, bien étayé, qui indique que la situation humanitaire est effectivement à craindre. L'idéal, à ce jour, lorsque les amis retournent, nous attendons de se mettre dans la logique de se réinstaller chez nous, parce que chez nous, nous avons des ressources, nous avons les moyens de nous développer, nous avons les moyens de vivre de manière autonome, sans refuser le droit pour eux de s'installer où ils veulent. Ils ont le droit de se déployer en RDC ou à leur guise.
Pour rappel, les Congolais rentrent d'Angola depuis le début du mois de septembre. On enchaîne avec l'Ituri où plus de 9000 enfants de déplacés du site de Kigonze à Bunia ne vont pas à l'école. Selon la vice-présidente de ce site, seuls 1000 enfants ont été inscrits déjà dans une école sur place et dans d'autres établissements de la ville. D'autres restent à la maison depuis 2 ans faute de moyens. Les responsables du site appellent le gouvernement congolais à garantir les droits des enfants. À Bunia, c'est une correspondance d'Isaac Remoyope.
Les sites de déplacés de Kigonze au quartier Muzipela hébergent environ 10 000 enfants en âge scolaire, dont environ 5 000 sans filles. Parmi eux, moins de 10% vont à l'école. De nombreux déplacés veulent scolariser leurs enfants, mais ils n'ont pas de moyens et même pour leur survie. Une mère qui a 10 enfants dit qu'un seul est inscrit à l'école. Dans d'autres familles, tous les enfants ne vont pas à l'école et sont devenus des mendiants dans la ville. Une fille de 15 ans dit avoir renoncé aux études car son âge ne correspond plus à son niveau d'études après 3 ans de chômage. Elle a décidé de renoncer aux études. Elle s'est déjà mariée et est maintenant mère d'un enfant.
J'étais en cinquième année primaire, ça fait déjà 3 ans que je chôme, nous avons grandi, d'autres sont des enfants et ils nous appellent des mamans. Nous avons honte, nous n'avons pas de moyens de payer la collation.
Selon la vice-présidente du site, le gouvernement a construit une école qui peut accueillir seulement 426 élèves dans les camps. Elle plaide pour la construction d'autres bâtiments scolaires au site. Cependant, pour elle, la solution durable est l'imposition de la paix pour leur permettre de retourner dans leur village d'origine.
Il y a 10 000 enfants aussi éthiopiens. Si le gouvernement était animé de bonne foi, il devait nous construire d'autres bâtiments pour qu'on restaure la paix.
De son côté, le gouverneur a annoncé le lancement de la campagne de scolarisation des enfants avec les concours des partenaires. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Politique à présent, la proposition de loi dite Tchiani était une distraction. Le plus important aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Déclaration faite par Moïse Katumbi-Tchapwe lundi dernier à Goma, au Nord Kivu, lors de sa visite humanitaire. Le président national du parti politique Ensemble pour la République réagissait ainsi aux propos du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, exprimant son point de vue sur la proposition de cette loi. Lors de son dernier voyage à New York, pour Moïse Katumbi-Tchapwe, la position du chef de l'État met fin à la polémique sur cette question. Un extrait de sa déclaration choisie par Sifa Magrou.
Je suis vu le chef de l'État, c'était aux États-Unis. Je crois qu'il a tranché. Pour moi, c'était une distraction. Le Congo n'a pas besoin de la division. On ne doit pas être distrait. Le plus important pour les Congolais, c'est le social, la situation économique de notre pays, la souffrance de la population congolaise. S'il y a une loi pour améliorer la situation de la population congolaise, ça je serais d'accord avec n'importe qui. Si nos officiers ou les enseignants vont toucher un jour 300 dollars, là, je serais d'accord de faire cette loi, parce qu'aujourd'hui, la situation économique est terrible. Je sais que le gouvernement a hérité ça, il y a des efforts à faire. Le plus important pour nous, c'est le Congo, donc le social de la population.
Rappelons que cette proposition de loi qui interdit l'accès à la magistrature suprême aux Congolais qui ne sont pas nés de père et de mère n'a pas été retenue dans le calendrier des matières à débattre au cours de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Et puis au sujet de la marche projetée et maintenue ce mercredi par le regroupement politique Nogec, alors que la Mouka l'a reportée au 16 octobre prochain, on apprend que Constant Mutamba, le coordonnateur de Nogec, a été interpellé avec trois de ses militants par la police nationale aujourd'hui, selon notre consoeur dépêche.cd qui donne l'information. Constant Mutamba et les trois militants de Nogec ont été pris par la police au niveau de la morgue de l'hôpital Roi Baudouin dans la commune d'Ndjili, ici à Kinshasa, alors que la police nationale dispersait les manifestants. L'actualité, c'est aussi la montée de la criminalité en Mbujimayi malgré les couvre-feux instaurés dans cette ville. Le commissaire provincial de la police nationale affirme que toutes les communes sont touchées également par cette situation qui fait suite à l'arrivée des bandits venus de Lubumbashi. Roger Nsinga demande par conséquent à la population de collaborer étroitement avec la police pour mettre ces hors-la-loi, pour mettre ces malfrats hors d'état de nuire. Il est au micro des
Nous sommes en train de lutter activement contre cette montée de l'insécurité, mais je dois vous dire que moi je ne suis pas surpris. Vous devez savoir que, un, d'abord l'insécurité zéro n'existe pas. Malheureusement, nous assistons ces derniers temps effectivement à une multiplication de cas. Mais nous aussi, à notre niveau, nous prenons des dispositions et des stratégies pour faire face à ça. J'avais dénoncé à l'époque le fait qu'il y avait un groupe de bandits en provenance de la province du Haut-Katanga qui était en route vers ici. Et nous avons aujourd'hui presque la preuve que ce groupe de bandits se trouve ici sur place. Nous sommes en train de les rechercher. Il y a eu dernièrement la relaxe de plusieurs bandits sur ordre de la haute hiérarchie du pays, la grâce présidentielle. Et nous constatons malheureusement que chaque fois que cela arrive, il y a toujours une montée de fièvre en ce qui concerne l'insécurité. Et n'oubliez pas que nous approchons également des fêtes de fin d'année. Ces gens-là, sont eux aussi, ils cherchent des moyens pour bien passer la période de fin d'année. Nous faisons notre travail et nous faisons tout pour que cette situation ne s'aggrave pas. Vous hébergez un criminel, vous-même vous n'êtes pas en sécurité, vous devez le dénoncer, quel que soit le niveau de fraternité ou de parenté que vous avez avec cette personne.
Il y a quelques jours, les grandes villes du Haut-Katanga étaient aussi en proie à l'insécurité. Les sources proches de la police nationale indiquaient que la plupart des bandits étaient d'anciens creuseurs clandestins des minerais appelés suicidaires. Au Sud-Kivu, pendant ces temps, l'insécurité refait surface sur la route Bukavu-Walungu. Mardi après-midi, des bandits armés ont abattu un chauffeur de taxi qui revenait de Kamituga dans le territoire de Mwenga. La population demande par conséquent l'implantation des forces de l'ordre dans la zone où 5 personnes ont déjà perdu la vie depuis 2020. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Michel Chirimwamilwanwa.
Le chauffeur victime a été tué le soir de ce mardi vers 17h30, témoigne la société civile et le chef de groupement. Jusque tôt ce matin, le véhicule taxi gisait encore sur les lieux, tout couvert de sang de la victime, évacué vers 23h par ambulance vers un poste de santé voisin. Le chauffeur victime du nom de Patrick, selon la société civile Kamisimbi, serait victime de ses collègues venus en cagoule et qui ont tiré des balles en série pour terrifier la population, mais qui ont visé la victime, pensent les habitants venus sur les lieux. Dans un mémorandum signé par la société civile de Kamisimbi et du chef du village de Musakambo, groupement de Kamisimbi, en la chefferie de Ngweche, dans le territoire de Walungu, la population demande le déploiement dans les villages de cette région des forces de l'ordre pour lutter contre cette insécurité souvent attribuée à ces localités. Bukavu, Michel Chimwami, Radio Okapi.
Et puis, les magistrats de Lubumbashi ont été outillés pendant 48 heures sur la manière de traiter les rapports de l'ITIE, le coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur minier, affirme que l'objectif est de les impliquer dans la lutte contre la corruption et la fraude. Eli Kadima est au micro de Jean Gandou.
Ce sont les magistrats qui doivent réprimer les infractions liées au détournement, liées à la fraude, à la corruption et tout. C'est pourquoi nous avons choisi des magistrats pour les outiller à la lecture du rapport ITIE, parce que c'est un rapport qui produit, qui nous donne des cas, des irrégularités ou des cas de détournement, de deniers publics. Comme ces derniers temps, l'IGF fait son travail et il amène à la justice. Le procureur peut, à la lecture d'un rapport de l'ITIE, se saisir de certains cas. Prenons par exemple, il y a la redevance qui était attendue au niveau des ETD, 15%. On sent que sur les 15%, il n'y a que peut-être 8% qui ont été donnés. Mais le reste là, on n'explique pas c'est parti où, pourquoi ça n'a pas été donné. Je crois que le procureur peut se saisir d'un cas pareil et ouvrir une information, demander un peu à ces entreprises là qui devaient payer pour qu'ils puissent s'expliquer. S'il sent qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il peut arrêter.
Actualité internationale.
Le tribunal de l'Union européenne a annulé ce mercredi 2 accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, l'important sur les produits agricoles et l'autre sur la pêche, à la suite d'un recours des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Le tribunal annule également les décisions du Conseil de l'Union européenne relatives, d'une part, à l'accord entre l'UE et le Maroc, modifiant ainsi les préférences tarifaires accordées par l'Union européenne aux produits d'origine marocaine.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du programme national de lutte contre le sida au Grand Nord Kivu, Dr Nikèze Maté, parle de l'augmentation du VIH sida à Beni, à Butembo et à Lubero, où 654 cas ont été notifiés lors du dernier trimestre. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Docteur Nikèze Maté, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Confirmez-vous l'augmentation des cas positifs du VIH-Sida dans la région de Beni, Butembo et Lubero?
Nous sommes devant des statistiques qui nous indiquent une légère augmentation des cas de VIH par rapport aux cas reçus dans les structures que nous accompagnons. Faisons une compilation de tous les cas qui viennent dans les zones de santé. Nous avons à peu près 17 zones de santé, 17 hôpitaux généraux. Nous avons aussi des structures, à peu près 150 structures dans lesquelles nous recevons des malades pour les dépistages. Les statistiques nous indiquent que nous avons reçu 34 039 personnes qui ont fait le dépistage. Et dans ce nombre-là, nous avons obtenu à peu près 654 cas positifs. Ça signifie quoi? Ça signifie que théoriquement, les gens qui viennent spontanément, les gens qui viennent pour le dépistage, le trimestre ici, les cas positifs étaient plus nombreux que les cas des trimestres passés, qui étaient autour de 536. Là, nous ne pouvons pas encore dire prévalence, c'est seulement la positivité qui a augmenté.
Qu'est-ce qui est à la base de l'augmentation des cas positifs du VIH-SIDA à Beni, Butembo et Lubero?
Nous sommes dans une zone à conflit. C'est une région où il y a beaucoup de cas de déplacés, des gens qui fuient les atrocités. Et dans les conditions des déplacés, il y a trop de vulnérabilité chez les déplacés, particulièrement les femmes et les jeunes filles. Et dans cette vulnérabilité économique, il peut y avoir des rapports sexuels non protégés et probablement la propagation de la maladie pourrait être facilitée. Mais aussi, nous avons augmenté notre technique de faire le counseling, de faire la consultation. Je vous donne l'exemple de l'hôpital général de Beni. Nous avons amélioré les conditions de faire le dépistage. Nous avons amélioré les box de consultation qui garantit la confidentialité. Parce que nous avons constaté que souvent la population ne voulait pas passer dans les structures pour le dépistage quand elle n'est pas sûre que la confidentialité est garantie. Et nous avons fait cette expérience avec l'hôpital général de Beni. On a amélioré les box de consultation. Et par rapport au trimestre passé, il y avait des mois où on était autour de 10-15 cas positifs. Donc on pouvait détecter. Mais les dernières statistiques ici nous donnent autour de 25-30 cas qu'on peut maintenant détecter mensuellement.
Là, c'est uniquement à l'hôpital général de Beni.
Oui, ça c'est l'exemple de l'hôpital général de Beni. Alors nous avons donné les mêmes conseils aux autres hôpitaux pour qu'on améliore la capacité à détecter.
Avez-vous des craintes par rapport à cette situation?
Oui. Vous savez que le VIH, c'est une maladie qui se transmet par voie sexuelle. Et normalement, la population sexuellement active, c'est entre 15 ans et 49 ans. Aujourd'hui, la majorité de la population de notre pays et même de notre province ici, c'est une population jeune. Donc, quand le VIH est en train de se promener comme ça, nous avons peur que les éléments que nous avions maîtrisés avant risquent de nous échapper. Donc nous avons peur que la maladie refasse encore surface et que le nombre de personnes touchées ne puisse augmenter.
Et qu'est-ce que vous conseillez pour limiter cette propagation ou éviter l'explosion des cas?
Nous souhaitons que des sensibilisations puissent être réalisées dans la communauté, auprès des jeunes, auprès des commerçants, des motards, des hommes en uniforme, par rapport à la prévention. Parce que nous savons tous que pour se protéger, il faut le dépistage, l'abstinence, il y a la bonne fidélité, il y a aussi l'utilisation du préservatif. C'est pour ça que nous faisons vraiment un plaidoyer pour que la population revienne aux bonnes habitudes. Je voudrais aussi signaler que depuis un certain temps, à cause de l'épidémie de COVID, il y a eu beaucoup de relâchements. On a pensé que il n'y a que COVID qui est là, et même avec Ebola, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis pour la lutte contre Ebola. Il y a eu beaucoup de moyens qu'on a mis pour la lutte contre le COVID. Malheureusement, beaucoup de nos partenaires, les ONG locales, ceux qui nous appuient, donc ceux qui nous accompagnent, les gens avec qui nous travaillons pour la lutte contre le VIH, ils n'ont pas reçu assez de moyens et malheureusement, la sensibilisation a baissé un peu.
Docteur Nikes Maté, merci.
Je vous en prie.
C'était l'invité de Radio Okapi ce midi, le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-SIDA au Grand Nord Kivu. Le docteur Nikes Maté était interviewé par Martial Papi Mokeba. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Alouzi Toukabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelé Kipela Mondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.